gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Vous avez reconnu cette espèce de truc bizarre qu'on appelle des gongs. Et il est dimanche, alors on se dit, tiens, il y a des gongs, c'est dimanche, il y avait Nadia avant, c'est bizarre, mais c'est bien la causerie.
Ça démarre bien.
De 22h à 23h sur Radio Calu. Voilà. Alors ce soir, autour de la table, nous avons Jonathan.
Bonsoir.
Nadège.
Bonsoir.
Clara qui va assurer comme une chef à la technique.
Bonsoir.
Comme d'hab, hein, de toute façon.
Je vais essayer.
Elle flippe un peu, je crois, ce soir. Et Lou.
Bonsoir.
Ah oui, alors ça marche pas quand tu parles pas dans le micro, en fait. Faut pas le mettre
Bonsoir.
Sur ton nez. Voilà, c'est mieux. Donc voilà. Qui, bah parce que c'est les vacances scolaires, elle a le droit d'être ici et elle est toute contente. Voilà. On va saluer Emma qui n'est pas là ce soir et on va saluer Jean-Yves qui n'est pas là ce soir. Et
non plus.
Vous n'aurez pas son rire mémorable qui vous réjouit tous les dimanches soirs sur Radio Canu. Mais promis, reviendra vite, comme Emma d'ailleurs. Voilà. Ce soir, une émission étrange, saignante, parlante, causante, virtuelle et réelle. Enfin, tout ça dans une seule émission, comme d'habitude. Et si vous voulez commenter, il faudra nous envoyer un mail à lacausericanu@gmail.com ou laisser un commentaire sur le blog à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et vous pouvez aller sur, on a dit qu'on disait ça, un réseau social vachement connu, Facebook, quoi, à la page. Mais de toute façon, on ne lit pas les messages sur Facebook, donc laissez-les plutôt sur le blog, c'est vachement mieux. Et on commence tout de suite avec Nadège et sa rubrique « Ça va saigner ».
Ça va saigner.
Et bah ouais, ça va saigner, parce que bon, cette semaine, hein, pour... Oui, je parle
attends,
dans le micro.
Je te le relève, ça va aller
attention,
mieux.
Attention, attends.
Ah, on fait tout ça voilà, en direct et tout, ouais. C'est bien.
Donc cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Assemblée nationale a décidé de rejeter l'amendement qui proposait la baisse de la TVA à 55,5%.
Oui, pas 55%, on n'y est pas encore.
Non, on n'y est pas encore, non, heureusement. Pour tout ce qui est protection périodique. Mm-hmm.
Donc tampons, serviettes.
C'est ça, les tampons, les serviettes, et puis bah, ça concerne aussi les cups, ça va... Ça concerne nos problèmes menstruels à nous les femmes, hein, parce que bah, apparemment 73% de l'Assemblée ont décidé que c'était vraiment un problème de bonnes femmes.
Ouais, bah, moi, c'est 73% d'hommes.
D'hommes,
c'est ça
ouais. Donc voilà. Donc, je sais plus sur quoi je voulais enchaîner.
Alors en fait, tu disais quand on a fait la prépa, parce que vous voyez, c'est
ouais, on a préparé quand même.
Nadège, elle a toujours du mal quand elle est derrière le micro. Alors on va essayer de l'aider,
ouais,
de l'emmener.
Ils sont gentils avec
tout.
Moi.
Bah oui, c'est comme ça la causerie, comme à la maison, la bière en moins. Et et en fait, donc tu disais quand on a fait la prépa que toi, ce qui t'hallucinait, c'est qu'en fait, encore une fois, des hommes décidaient pour les femmes. C'était déjà voilà. Assemblée, bon. Et surtout qu'on faisait des règles, quelque chose d'encore une fois tabou, dont il ne fallait pas parler et qui était qu'un problème de gonzesse.
Oui, c'est voilà, qu'un quoi. Problème de nana. Enfin hein, voilà, on a 5 jours par mois en moyenne, hein, parce qu'il y en a c'est 3, il y en a c'est une semaine. Hein, on est quand même emmerdé par ça, on n'a pas choisi de l'avoir. Désolé messieurs de vous l'annoncer. Hein, c'est un truc qui nous fait royalement chier aussi la plupart du temps. Donc voilà, il n'en reste pas moins que bon bah les culottes tachées c'est pas très super joli à voir et puis surtout c'est pas bien vu hein, non plus et donc du coup on est bien obligé de se protéger. J'aime beaucoup ce terme d'ailleurs aussi. C'est non mais la protection périodique, enfin il faudrait trouver un autre nom à ça, se protéger, ça véhicule l'idée que c'est mal, que c'est sale, que c'est impur, hein.
De toute façon, c'est un peu ce que laisse entendre ces
chairs. Ah bah c'est même ces chairs, carrément ce que laisse entendre.
C'est, ah bah Lou, si tu piques les
notes, si elle pique mes notes, ça va pas.
C'est ce que laisse entendre ces députés, parce qu'il y en a un qui a dit, après tout, moi, ma mousse à raser, je la paye à 20%. Alors,
c'est ça. Alors, pas... en fait, le message qu'il nous envoie, c'est que finalement, 5,5%, c'est les produits de première nécessité. Donc normalement, principalement la bouffe, j'ai la liste, hein, on l'épluchera un petit peu après.
En gros, les boissons, la bouffe...
Mais ouais, les boissons, alors bon, le coca c'est 5,5% par exemple, quoi. Mais pas que ça, les livres sont à 5,5%.
Ce qui est une bonne chose.
Ce qui est une très bonne chose, hein, c'est un accès à la culture, et c'est les entrées de spectacle, les matchs de foot, tout ça c'est à 5,5%. Mais les protections périodiques, c'est considéré quand même comme un produit de luxe encore. C'est comme si on pouvait s'en passer.
C'est ce que ça veut dire, c'est qu'on dit qu'on met une TVA généralement à 20% sur les produits qui ne... Comment dire,
bah sur les biens et services, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire.
Qu'on n'est pas obligé d'avoir, qu'on n'est pas obligé de faire. Donc voilà. Donc là, le message, en gros, qu'on nous envoie, c'est...
Vous n'êtes pas obligé de d'éponger tout ça quand ça arrive. Parce que c'est ça, au final.
Ouais, enfin, alors c'est moi, j'aimerais bien voir la gueule de 50% de la population, là, du coup. Hein,
quand tu vois le prix des culottes.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est un budget tous les mois. Hein, du coup, là, ça en deviendrait. Hein, pour le coup.
Mais c'est un peu la coureuse new-yorkaise dont j'ai perdu le nom, qui avait fait le marathon de New York.
J'ai pas eu le temps de rechercher.
Mais justement, pour dire, ben voilà, c'est ce que vous nous voulez, c'est qu'on fasse ça, quoi.
Ouais, et puis elle l'a fait tout simplement parce que courir un marathon, ça prend quand même quelques heures et qu'elle avait pas le temps d'aller changer son tampon, quoi. Mm-hmm. Donc elle a fait le choix de courir sans protection. Et alors, elle a été regardée quand même pas mal de travers parce que bon, ben, c'est pas quelque chose qu'il faut montrer, quoi. Encore une fois, c'est quelque chose de perçu comme sale, comme impur, comme tout ça véhiculé beaucoup par les médias. Hein, on nous vend des protections pour sentir bon la rose et pendant nos périodes de menstrues.
J'avais jamais remarqué que vous puiez autant, mesdames. Quand même.
Eh ben, faut croire. Hein.
Parce que d'après la pub, c'est terrible. Hein. Ben, vous pouvez pas aller dans cette soirée, tout ça. C'est... Et d'ailleurs, vous avez des règles bleues. J'ai découvert.
Oui,
ça,
c'est beau. Hein.
C'est étonnant.
Mais le sang de la femme pendant la période de menstruée est bleu.
Enfin, d'après toutes les pubs. Hein, moi, je.
Petit côté royaliste. Mais c'est vrai qu'il y a cette image, tu le disais pendant la prépa, de quand on vend des protections hygiéniques, d'essayer de montrer à la femme qu'il faut qu'elle soit mieux que naturelle et qu'il ne faut pas que ça se voit, il ne faut pas que ça se sente, il ne faut pas qu'on le sache, il ne faut pas que ça existe.
T'as remarqué le temps des femmes dans les pubs pour les protections hygiéniques. Moi, je sais pas toi et les femmes en règle générale. Moi, quand je vais avoir mes règles, j'ai la gueule pleine de boutons, j'ai le cheveu gras, toutes les nénettes qu'on voit dans les pubs, elles sont toutes pimpantes, mais...
C'est parce qu'elles portent les bonnes protections.
Mais c'est parce qu'elles portent les bonnes protections,
oui, voilà,
quoi. Donc,
à 20%, taxé à 20%.
Oui, parce qu'il y a ça aussi, si on regarde la publicité qu'on fait pour les protections hygiéniques, c'est de la marque, donc une grande marque, hein, on ne va peut-être pas les citer, mais...
Ah non, on ne va pas les citer.
Mais voilà, ces grandes marques...
On les connaît assez bien.
C'est ces grandes marques-là, finalement, qui peuvent nous apporter la protection efficace et pas les autres. Donc, c'est, sachant que certaines, justement, de ces protections, de ces grandes marques, sont faites... entièrement en plastique, hein, voilà. Que mais
avec des cellules absorbantes.
Voilà, on ne sait pas trop en quoi.
C'est 100% naturel.
C'est ça, c'est de la cellulose.
La ouate des cellulose.
La ouate.
Mais du coup, tu parlais du fait que c'était sale et mal vu. Et c'est un truc un peu judéo-chrétien, ça, ou c'est un peu partout dans le monde?
Oh, c'est partout dans le monde. Ouais, parce que du coup, je me suis un peu... Du coup, ouais, jolie transition, Fabien. Non, mais faut le voir, il fait le mariole derrière le micro, là.
Ceci est totalement faux.
Ouais, donc, ouais, du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait partout dans le monde. Alors, attendez, je retrouve mes notes, parce que alors là, c'est pas simple non plus. Non, c'est quelque chose de généralement vu... comme impur et c'est honteux quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut cacher, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans encore beaucoup de pays dans le monde. Alors j'ai des exemples tout bêtes hein, mais bon, au Népal par exemple, il y a la Chopadi. La Chopadi, c'est un rituel hindou qui est interdit, qui a été interdit par le gouvernement donc en 2005.
Oui, c'est ça, 2005. Ouais. Après
j'avais noté quelque part, je ne sais plus où.
Après la chute
trop
du roi,
là.
En fait.
Et donc, en fait, c'est une tradition qui veut que, pendant ces règles, une femme quitte son foyer et sa communauté pour aller vivre recluse dans une hutte. Donc, ah, pendant une semaine, parce que c'est le temps qui est donné à ces femmes-là.
Recluse, ça veut dire que tu ne sors pas de la hutte. Hein,
ça veut dire que dedans, tu vis enfermé, que tu n'as pas le droit de contact extérieur. Tu vis alors seule ou à plusieurs, si plusieurs femmes sont menstruées en même temps, elles ont quand même le droit d'être entre elles. Hein, sympa, merci. Un peu de compagnie le soir, ça peut être pas mal. Mais bon, ça génère quand même pas mal de problèmes, notamment bah, l'hygiène. Hein, parce que, au fin fond, alors déjà, que, bon, on parle beaucoup de. C'est au Népal, mais la loi est a interdit cette tradition. C'est encore dans les provinces encore reculées, ça s'applique encore. Donc déjà que l'accès à l'eau, à l'hygiène, etc., ce n'est pas forcément.
Évident,
quelque chose d'évident. Et ben elle, pendant une semaine, il faut qu'elle se barre de chez elle, déjà. Donc, dans des cahutes de fortune, hein, la plupart du temps. Donc,
avec le froid
en plein hiver, avec les animaux sauvages. Il y a des toutes les années, il y a des morts. Il y a des mortes pour le coup à cause de cette tradition. Donc ça, c'est au Népal. On en a d'autres. Hein, je ne sais plus où est-ce que j'avais noté ça, mais c'est par exemple, les règles dans le monde, c'est un des plus grands facteurs de déscolarisation des filles.
Parce qu'elles ne vont pas à l'école quand
elles vont pas à l'école quand elles ont leurs règles, parce qu'elles n'ont pas accès aux protections périodiques. Donc, comme elles ne peuvent pas se protéger une semaine par mois, bah, elles sont chez elles, hein, parce que bah, à l'école, ça va pas bien.
Et puis il y a tout ce qui entoure.
Il y a tout ce qui entoure.
Enfin, tout le patriarcat qui est autour.
Il y a ça, il y a le fait que dans la plupart des écoles, ils n'ont pas d'espace fille-garçon. Donc elles partagent les toilettes, etc. Donc il y a la honte qui vient se rajouter par-dessus d'avoir ces règles. Il y a des pays comme. Alors attends, parce que. Oh là là, mes
tu
notes.
Vas le retrouver, détends-toi.
Non, c'est pas ça.
T'inquiète pas.
Si, c'est là. Donc, je sais plus où est-ce que c'est, mais.
Tu sais qu'il y a, je crois que c'est en Afghanistan, on disait aux jeunes filles que si elles se lavaient.
C'est ça. Alors, en Afghanistan, par exemple, si elles prennent des douches pendant qu'elles ont leurs règles, on leur dit qu'elles peuvent être stériles. Prendre sa douche pendant que tu as tes menstrues rend stérile. Voilà. Donc, bon, pour l'estime de soi, l'hygiène, encore une fois, voilà. En Iran, la moitié des écolières pensent que les règles sont une maladie.
Ah ben, c'est bien, ça. C'est pas...
En Inde, on dit que si tu as tes règles, tu ne peux pas toucher les aliments, sinon tu les contamines. Donc, pendant une semaine, tu n'as pas le droit de cuisiner, tu n'as pas le droit de manger avec les doigts, tu n'as pas le droit de... C'est impur.
Ce qui est emmerdant dans un pays où on mange majoritairement avec les mains.
C'est ça.
C'est compliqué quand même.
En Bolivie, par exemple, encore, on ne jette pas sa serviette usagée dans la poubelle parce que ça pourrait entraîner des maladies, voire même le cancer. Alors moi, je veux bien des études là-dessus. Hein, parce que, mais bon, du coup, eh ben, même s'il y a des réceptacles... Alors, encore une fois, il y a le problème... des toilettes mixtes ou des endroits où simplement elles peuvent accéder à un peu d'hygiène, etc. Non, elles gardent leur serviette périodique, leur tampon, etc. pour celles qui y ont accès, dans leur sac toute la journée pour pouvoir le jeter chez elles, quoi. Super. Il y a des pays, encore dans l'Afrique de l'Est, il y a encore beaucoup de jeunes filles qui utilisent des bouts de matelas, des feuillages, des torchons, du papier journal, voire même de la boue pour se protéger de leur menstruation. Bon, encore le problème de l'hygiène, j'ai envie de dire. Et puis, il y a des pays comme le Japon qui, dans certaines régions, interdisent aux femmes d'exercer des métiers traditionnellement masculins, comme chef sushi, par exemple. Parce que le cycle des menstruations entraînerait un dérèglement. Alors, un dérèglement de quoi ? On ne sait pas. Mais il y a M. Yoshikuzi Ono, qui est fils d'un grand chef sushi au Japon, qui dit « Un vrai chef sushi doit avoir les pupilles gustatives fiables. Or, les règles introduisent un dérèglement gustatif chez les femmes. » Moi, j'aimerais bien qui m'explique.
Je trouve que ça ressemble un petit peu à l'histoire de la mayonnaise.
Oui, non, mais c'est ça. Alors France, ça, ça ouais. fait partie des croyances. On rendrait stérile aussi la nature hein, avec nos règles. Hein. Voire, il y a d'autres croyances qui pensent que nos menstrues seraient signe de fertilité dans nos champs. Donc,
des trucs. Et c'est. Est-ce que tout à l'heure pendant la prépa, on parlait du sexe pendant les menstruations ? Parce que.
Je vais juste te dire que généralement, on te dit que tu n'as pas le droit d'avoir.
Non, c'est sale.
C'est sale, c'est pas
sale.
Bien.
Le sang, c'est sale, mais le sang, juste quand il sort de la vulve, quoi, en fait. Donc, baiser pendant vos règles, hein. Sérieux, hein.
C'est pas plus mal en même temps. Ça fait pas de mal, ça tue personne, jusqu'à preuve du contraire.
C'est pas plus contaminant qu'autre chose, hein, parce que, si on parle des maladies sexuellement transmissibles, que ce soit par le sang ou par les sécrétions vaginales, c'est la même chose.
Et puis il faut savoir qu'à ce moment-là, nous les femmes sommes beaucoup plus sensibles, beaucoup plus
à cette période-là,
réceptives.
Oui.
Donc, comment dire, c'est encore un moyen peut-être pour une société patriarcale de nous interdire un certain accès à l'orgasme. J'ai envie de dire.
Ah, quelle réflexion intéressante.
Si on regarde les choses comme ça, tu me dis ce que t'en penses, Nadège, mais le fait de toujours considérer que donc déjà les menstrues sont quelque chose de sale, de quelque chose à cacher, donc qui est quand même la preuve de notre féminité, de notre fertilité aussi, la plupart du temps, c'est aussi le moment où on est le plus sensible, donc plus réceptive à câlins, caresses et autres pratiques. Et finalement, c'est le moment où on devrait se cacher, alors que c'est le moment où on est le plus femme. Donc c'est, quelque part, moi, le paradoxe me saute aux yeux. Après,
en tout cas, au niveau physiologique... on est généralement plus réceptif dans cette période-là.
Complètement.
Comme dans la période d'ovulation d'ailleurs, mais du coup ces deux périodes sont intimement liées, j'ai envie de dire.
Pourquoi hein Pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a le dictionnaire. Hein. Enfin,
Alors, une ovulation.
Non, on ne va pas faire un cours de bio là tout de suite.
Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'encore une fois, on met sur le dos des femmes le fait d'être sale, impure, machin et tout. Et j'entends, où tu lis sur les forums, où tu entends des mecs qui t'en parlent et tout, qui disent ouais, mais c'est sale, j'ai pas envie d'être sali, machin et tout. Alors, je veux dire, messieurs. Si vous m'écoutez, ou mesdames, si vous êtes lesbienne ou bisexuelle, je vous rappelle qu'il existe tout un tas de petits objets qu'on peut mettre sur soi. Voilà, on appelle ça un préservatif, ou on appelle ça une digue dentaire. Vous voyez, si vous craignez, c'est pas un souci. Il y a tout un tas d'objets qui vous permettent de vous sentir bien. Et restez fraîche. Pardon, c'était mon côté publicité qui m'est revenu.
Mais bon, ça, on y reviendra un petit peu à la publicité, je pense, hein, dans ce domaine-là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'injonctions et à la discrétion et la honte que, du coup, ça génère. Hein, parce que, du coup, encore une fois, c'est, on nous invite à le cacher. Il ne faudrait pas que ça se voie, il ne faut pas que ça se sente, il ne faut pas que ça se sache.
Tu voulais d'ailleurs parler d'une campagne qui était lancée, je ne sais plus par qui.
Ouais, c'est Oser le féministe qui lance une campagne. Alors je ne sais pas, j'ai pas regardé les dates, je ne sais pas quand est-ce qu'elles ont lancé ça, mais ça s'appelle Sans Tabou. Il y a là un site qui s'appelle Sans Tabou. Alors sans SANG tabou tout attaché .fr. Les règles, c'est pas la honte, et qui du coup reprennent tout un tas d'idées reçues sur les règles, qui font un petit peu un tour du monde justement de l'état des lieux des femmes, enfin de leur menstruation à travers le monde. Et du coup, il est intéressant à parcourir. Elles font des campagnes justement pour que les jeunes filles aient une autre vision de leurs règles. Pour dire le mot le plus simplement possible, parce que ça, c'est pareil. On est très infantilisé autour de nos règles. Hein. Des petits mots sympas, des petits noms. Et puis surtout, il ne faut jamais le dire. Le mot règle, c'est compliqué à entendre, il faut croire, parce que ragnagna, ça passe mieux, quoi. Les Anglais, il y en avait d'autres comme ça, le cardinal qui nous a beaucoup fait rire.
Voilà. Les communistes aussi.
Les communistes, ouais. Enfin voilà, mais on en parle sans jamais le dire clairement. Et alors que c'est quelque chose de complètement naturel, qui fait partie de la vie, qu'encore une fois, c'est pas sale.
C'est marrant, ça me rappelle, alors je ne sais plus le film, mais qui était assez drôle, où il y avait un mec qui était en bande de potes et de. Et de des couples ensemble, hétérosexuels, machin. Et donc les mecs entre eux rotent, pètent pendant presque tout le repas, se marrent, machin et tout. Et d'un seul coup, il y en a une qui se lève et qui dit « Excusez-moi, je viens d'avoir mes règles ». Et tout le monde se tait. T'as pas honte de dire ça? Voilà, c'est l'exemple typique.
Ouais,
du,
mais c'est ça. C'est, truc, voilà, c'est ça reste encore super tabou et puis ça véhicule plein d'idées. Hein. Enfin, ça rabaisse la femme assez facilement. Il y a un texte que j'aime beaucoup dont je voulais parler aussi qui s'appelle Si les hommes avaient leurs règles. Je m'en mettrai le lien sur le blog parce que je l'ai pas noté là et voilà et je vous invite à le lire parce que ça serait je pense que si les bonhommes avaient leur règne ouf ça serait pas du tout vécu enfin ce serait pas la publicité autour serait pas du tout la même quoi donc non mais c'est un truc viril il faut pouvoir saigner pour pouvoir enfin tu vois dans le, c'est, je trouve ce texte extraordinaire et quelquefois je me dis que ça pourrait être bien de faire un copier-coller à tous nos membres de l'assemblée quoi. Même.
Avec la paire de baffes.
Avec la paire de baffes.
Musique.
Musique, ouais. Ah,
c'est ah. Juste parce que c'est un peu en lien. C'est bien aujourd'hui la journée de la ménopause.
Ouais, c'est aujourd'hui. Ça.
Et on fait un petit coucou à Fanelli d'ailleurs qui a fait une spéciale ouais. Chaleur ouais. Cet après-midi.
Shatter your faith, kind of lies to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating out with all the blood in a city. This world is so much hate. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood.
Et c'était Drain the Blood avec Dirty Steelers.
Et c'était où? C'était dans quelle émission?
Sur Radio Canu, toujours, la causerie. 102.2, de 22 à 23, hop, hop, la totale. Et donc, on reprend avec Fab, ouais. qui va nous parler un petit peu YouTube, réseaux sociaux, télé, médias, en fait.
Ouais, je vais vous parler un peu de tout ça. Parce que ça, alors, ça part d'une vidéo qui est, comment on dit maintenant, une vidéo virale. Vous savez, ça veut dire, c'est, ça veut dire qu'on l'a partagée plus de deux fois, a priori. et voilà. Et du coup, en fait, c'est une vidéo où un gars, pendant environ 25 minutes, vous explique pourquoi les gens qui regardent la télé sont des cons et pourquoi ceux qui sont sur sur YouTube et sur Internet sont des gens intelligents. Alors, ça peut paraître très bizarre ce que je dis, mais elle est vraiment vraie, cette vidéo. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont déjà croisée. Et c'est assez intéressant parce qu'il explique pourquoi les gens qui sont devant la télé, ils se font avoir parce qu'en fait, il y a de la pub et puis qu'en fait, on leur place des produits et puis qu'ils se rendent pas compte de tout ça et puis qu'en fait, ils sont un peu bébêtes parce que quand ils vont au cinéma, ils voient même pas que James Bond, il roule toujours dans la même voiture et qu'il a la même montre. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu un truc très...
Mais sur YouTube, il n'y a pas 15 secondes de pub avant chaque truc, voilà, là,
c'est,
les gens.
C'est ça qui, moi, m'a fait rire, c'est que ce gars, en fait, fait 25 minutes pour nous expliquer que voilà. Et moi, quand j'ai regardé sa vidéo, je n'ai pas regardé les 25 minutes parce qu'il m'a fatigué très vite, le monsieur. Je pense qu'au bout de 12 minutes, j'ai arrêté parce que c'était vraiment devenu trop. Et je suis allé à la fin. Et donc, juste avant sa vidéo, j'avais 30 secondes de pub. Mmh. Et pendant sa vidéo, j'ai eu des coupures pub. Vous savez que maintenant, chez YouTube, oui, quand une vidéo dépasse les 10 minutes, vous avez des coupures pub au milieu de votre vidéo. Alors, je me suis dit, il est marrant, le monsieur, parce qu'il se met donc sur YouTube pour nous expliquer que les gens qui regardent la télé, ils ont de la pub. Bah, ça tombait bien, parce qu'il y a de la pub, en fait, sur YouTube aussi.
Ouais, puis limite, proportionnellement, il y en a presque plus sur YouTube qu'à la télé.
D'après les statistiques, c'est la même chose. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été menées, et en fait, c'est des sociologues qui ont mené ces études-là, et ils ont démontré qu'en fait, vous passez une heure devant la télévision, vous passez une heure à surfer sur Internet. Alors, ce qu'ils appellent surfer sur Internet, c'est pas être sur un seul site, c'est vous papillonner un peu sur Internet. Globalement, vous êtes exposé à peu près au même taux de publicité. Alors, elles sont différentes, hein, parce que la télé, c'est plutôt de la pub vidéo avec du sang bleu et, ouais, et de la fraîcheur. Tout
et
ça
de la fois. Fraîcheur et
des
fleurs qui sortent de l'utérus.
tout ça. Mais en fait, sur YouTube ou sur Internet, c'est plutôt de la pub, ce qu'on appelle de la pub écrite ou de la pub flashée, c'est-à-dire des trucs qui apparaissent, des choses comme ça.
Ouais, et puis ciblée.
Et ciblée, évidemment. Alors, c'est là que je voulais en venir. Parce que le monsieur, en fait, il essaye de nous expliquer que la télé, c'est le mal et que lui, en fait, comme il ne regarde pas la télé depuis des années, mais qu'il est que sur Internet, il est vachement plus intelligent que les autres. Alors, ce qui est problématique, c'est de confondre un outil avec ce qu'on en fait. C'est un petit peu comme si le monsieur nous avait dit « Moi, vous savez, les gens, ils ont des marteaux. Et ben moi, j'ai un marteau à deux têtes et du coup, je suis plus intelligent que vous. » C'est complètement ridicule.
Plus efficace.
C'est complètement ridicule, mais mon exemple, mais c'est à peu près ça, la façon de faire. Et en fait, je me suis un petit peu... J'ai un peu gratté pour voir un petit peu comment les gens percevaient les médias, un petit, voilà, dans différentes études, machin et tout. Et donc, en général, les gens ont l'impression, je dis bien l'impression, que Internet est plus libre que la télévision. Alors, c'est un peu étonnant parce que la télévision, aujourd'hui, en moyenne, les Français reçoivent entre 25 et 50 chaînes. C'est à peu près ce qu'ils ont. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus captifs d'une seule chaîne, comme ça pouvait être le cas à l'époque de l'ORTF, où il y avait une chaîne de télé. Donc, voilà. Donc, ils ont le choix. Ils ont y compris le choix de l'éteindre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de regarder la télévision. Et a été démontré, et ça, c'est intéressant, qu'on éteint plus facilement sa télé que l'on éteint Internet. Parce qu'en fait, Internet, on l'a partout. Internet, aujourd'hui, on l'a sur son PC, sur son portable, quand on a un smartphone. Et puis, on l'a dans les cybercafés. Ouais, quand on va dans un truc où on vous propose d'avoir des tablettes, vous pouvez vous connecter pour voir vos mails, les choses comme ça. On l'a même dans le train maintenant et dans les avions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet est de partout.
À l'aéroport, il y a des bornes.
Ouais, et même dans l'avion maintenant, il y a des compagnies qui proposent le Wi-Fi dans l'avion. Il y a des bus comme les ID-bus de la SNCF où vous avez du Wi-Fi dans le bus.
D'accord.
Et donc, il y a vraiment, vous avez Internet de partout. Vous pouvez vous connecter de partout. Donc, on est beaucoup plus dépendant finalement du réseau Internet que l'on est dépendant de la télévision. Généralement, on arrive à se passer de télévision, alors que beaucoup de psychologues disent qu'on a beaucoup plus de mal à se passer des checking, comme on dit, c'est-à-dire je regarde si j'ai mes mails, je regarde si j'ai des gens qui m'ont parlé sur Facebook, je regarde si j'ai des gens qui m'ont parlé sur Twitter, vous voyez. Et en fait, au final, Internet nous rend beaucoup plus captifs que la télévision. Et ça, toutes les études le prouvent. C'est-à-dire, même si vous êtes un militant, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur des gens militants, c'est-à-dire qui utilisent Internet pour faire de la propagande ou pour aller lire des choses liées à leur pensée. C'est-à-dire, voilà, ce qui n'est pas un tort. Hein. Alors, ça a été fait sur plusieurs types de militants. Il y a les militants religieux et les militants, disons, plutôt politiques. Et les deux, en fait, ont le même défaut. C'est-à-dire qu'Internet, au début, on y va, on dit « Ah, moi, je suis un militant, je vais pas me faire avoir, je regarde que ce que j'aime. » Et puis petit à petit, on se retrouve à regarder des vidéos de chatons et de rigoler.
C'est ça.
Parce qu'en fait...
Chat obèse, salut Tan.
Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en réalité, Internet n'est pas un vase clos. La télévision est un vase clos. En fait, au final, parce que c'est un carré d'image, et que quand on tourne sa tête à gauche ou à droite, en fait, l'image elle s'en va, et de toute façon, si on suit pas ce qu'il y a à l'antenne, eh ben, on perd quelque chose, et donc on peut très vite se dire bon bah là j'ai pas suivi, j'arrête. Sauf qu'Internet, en fait, ça marche pas comme ça. C'est ce qu'expliquent les psychologues et les psychiatres. C'est qu'Internet, en fait, c'est nous qui fixons non pas notre liberté de mouvement, mais notre liberté de rythme. C'est-à-dire que quand on regarde une vidéo YouTube, bah, on fait pause. Et puis on va faire autre chose, puis on revient, puis on recommence la vidéo, par exemple. Quand on est sur Facebook, on a ce qu'on appelle la timeline, comme diraient les gens de Facebook.
Mais et les notifications qui nous disent...
Donc on ne perd rien. Mm. Enfin, on a l'impression de rien perdre. Ouais. Parce que là aussi, c'est choisi, on ne vous montre pas tout ce qu'on veut. Enfin, voilà. Et voilà. Et ça, donc, en fait, ça tue la liberté, en réalité. Parce que c'est ce qu'ils expliquent, c'est que c'est une fausse liberté. Parce qu'en fait, vous êtes toujours dirigé. Pourquoi ? Parce que quand, par exemple, vous regardez quelque chose... Faites l'expérience un jour. Vous faites une recherche sur votre moteur de recherche préféré. Voilà. Et puis, si vous voulez vraiment que ça marche, mon expérience, vous le faites sur le plus gros moteur de recherche. Vous savez, un truc avec deux O à l'intérieur. Mmh. Et vous tapez, je ne sais pas, allez, on prend un truc au hasard, bottes en caoutchouc. Parce que vous cherchez des bottes en caoutchouc.
J'allais encore parler de règles, moi, mais...
Ouais, je voulais changer de sujet. Non, on pourrait plus faire ça, mais tapez bottes en caoutchouc. Si vous vous connectez dans les deux minutes qui suivent, à Facebook, Twitter, ou même à un blog. Vous savez, les blogs qui sont pas où les gens ne payent pas, ou les blogs gratuits où il y a de la pub en haut. Vous allez avoir des pubs dirigées sur les bottes en caoutchouc. Et en fait, c'est ça la non-liberté. C'est qu'au final, Internet vous dirige au même titre que la télévision. Et c'est un petit peu ce que je voulais dire. C'est,
ah, c'est même carrément plus
insidieux,
en fait.
Et ça peut être même plus pervers.
C'est-à-dire parce que la publicité sur la télé, elle s'adresse à des millions de personnes, alors ciblées, etc. Hein, parce qu'on sait très bien que les pubs, elles sont ciblées selon l'heure de diffusion, etc. On va pas passer certaines pubs à 8h du matin comme on en passe à, comme on va la passer à 14h ou à 20h. Mais là, c'est carrément, enfin, c'est ce principe de cookie, en fait, hein, qui enregistre ces petits espions là, qui enregistrent tes recherches pour mieux cibler la publicité, quoi.
Mais ce qui est intéressant, enfin, moi, je trouve dans cette histoire là, c'est qu'au final, effectivement, il existe de ce qu'on appelle l'internet militant, vraiment expurgé de tout. On ne va que sur certains sites, on ne lit que certaines choses et tout. Ça existe, mais c'est une ultra-minorité, mais comme dans la vie. Je veux dire, les gens ultra-militants qui sont prêts à faire attention à tout ce qu'ils achètent, tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils machin, c'est très très rare. Et en fait, les études, les sociologues, ça, expliquent qu'en fait, l'espace de soi-disant liberté Internet est un espace extrêmement dirigé, et qu'on s'en rend assez vite compte. Bah, déjà parce que les trois grands acteurs qui font tourner le web sont des trois grandes multinationales américaines, et qu'elles n'ont, enfin d'ailleurs même pas américaines, parce qu'elles se considèrent comme multinationales, donc au-dessus des États, et elles n'ont aucune intention de ne pas gagner d'argent.
Donc... C'est ce que tu disais pendant la prépa par rapport à YouTube et les vidéos de massacre, ou de, enfin de massacre.
Oui, c'est ça. C'est l'exemple de YouTube qui, par exemple, a mis 2 ans et demi à supprimer les décapitations qui étaient filmées par des tarés, ou des meurtres aux États-Unis, ou des choses comme ça, enfin des images extrêmement violentes, qui sont restées pendant 2 ans et demi parce qu'en fait, YouTube a fait un calcul très con, c'est que ça lui faisait des gens qui venaient sur
ça
faisait des clics. Donc, ça faisait rentrer de l'argent. Et que du coup, ce truc-là, au final, ça leur allait bien, même si c'était, tant pis, les gens venaient voir quelqu'un se faire décapiter, c'est pas grave, quoi.
Ouais, même si, éthiquement, c'est quand même très discutable.
C'est totalement discutable, sauf que
financièrement, c'est vachement rentable, quoi.
C'est le non-filtre, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, les gens ont le droit de voir ce qu'ils veulent, et puis c'est pas mon problème, moi je suis que fournisseur. Sauf que cette attitude-là, elle est surtout, avant tout, je ne suis que celui qui va toucher le pognon, parce qu'en fait, qui peut se réjouir de voir une décapitation, de laisser passer des images de décapitation. Enfin, je veux dire, que des journalistes y aient accès, par exemple, parce qu'il faut arriver à décrire ce qui s'est passé, ok, que tout le monde ait accès à ça, sans filtre, sans explication, sans rien.
C'est une manière de normaliser les choses.
Voilà, c'est malsain, c'est hyper malsain.
C'est super malsain dans la construction des individus, je trouve.
Donc voilà, moi je voulais parler de ça parce que je trouvais que ce monsieur qui commence à faire un peu un buzz, il m'amusait un petit peu beaucoup, parce qu'au final, quand il suffit un petit peu de regarder les chiffres, de voir un petit peu comment l'utilisation d'Internet, pour se rendre compte qu'au final, l'Internet peut rendre aussi captif que la télévision. Je vais donner juste des chiffres comme ça pour les gens
se rendre compte. Plus, hein.
Dans les années 80, les enfants rentraient de l'école et passaient en moyenne 3h20 devant l'écran le soir avant d'aller se coucher. C'était la moyenne, c'est-à-dire qu'on rentrait de l'école, on ne cessait de voir et après on regardait le Club Dorothée. Ou avant, ça
téléchat.
Ou téléchat. Mais on passait 3h20 devant la télévision en moyenne, c'était une moyenne. Aujourd'hui, en fait, les enfants, si vous cumulez télévision plus les écrans d'ordinateur, smartphone, tablette et autres, ils passent 5h20 devant. Donc en fait, on n'a pas éliminé la télé. On a rajouté du temps devant les écrans en plus. Et en fait, c'est là le problème, c'est qu'on n'a pas réfléchi aux outils. Et on s'est dit, ah mais Internet, ça rend intelligent. Bah non, pas plus que le dictionnaire. Vous pouvez avoir un dictionnaire à la maison, si vous l'ouvrez jamais, ça sert à rien. Vous pouvez avoir Internet, si vous allez que sur des sites débiles, vous serez débile. Enfin, je veux dire, c'est pas le fait d'avoir accès à quelque chose qui vous rend intelligent, c'est le fait de s'en servir et d'en servir intelligemment. Et le problème, il est là, c'est qu'encore une fois, on prend un outil comme étant quelque chose de magique, alors que ce n'est qu'un outil, rien de plus, et qu'il faut avoir une réflexion sur l'outil. Mais c'est valable pour Internet, pour la télé, pour le cinéma, pour le livre, pour tout. Avoir un esprit critique, un pas de recul, c'est hyper important. Et que là, moi, ça m'a un peu gonflé, encore une fois, d'avoir quelqu'un qui vient nous expliquer que quand on n'a pas la télé du tout et qu'on n'a que Internet, on est forcément plus intelligent que les autres. Je trouvais ça un peu limite parce que je trouve que si le monsieur me dit j'ai pas la télé et je vais que sur Internet pour chercher des définitions de grands auteurs et je lis des livres, je pourrais bien croire qu'il se cultive, il n'y a pas de problème. Par contre, si le monsieur il me dit je vais pas la télé, j'ai que Internet, mais qu'il va voir que des lolcats sur YouTube.
Ouais, c'est comme ce mode des citations là, sur les grands réseaux sociaux, etc. Ça fleurit les citations à tout bout de champ, alors que la plupart des gens n'ont même pas lu le livre ou la personne concernée.
Mais ça me fait beaucoup rigoler parce que j'aime beaucoup les hors-contexte. C'est-à-dire qu'il y a des citations qui sont employées dans certaines situations dans l'œuvre en question et qui vont se retrouver sur YouTube sur des grands réseaux sociaux dont nous ne donnerons pas le nom.
Non mais n'importe quoi,
N'importe quel réseau et qui vont être complètement hors contexte et moi ça me fait beaucoup rire. N'arrêtez pas. S'il vous plaît, pour moi, n'arrêtez pas.
Ah non, moi, j'en suis friande aussi. Et je l'utilise aussi, d'ailleurs. C'est un outil comme un autre.
Ce qui est amusant, c'est après quand ça tombe dans une dérive qui n'était pas prévue. Moi, je pense à... Alors, je vais me faire engueuler par les fans de cinéma. Je ne sais plus qui a réalisé le film. Et d'ailleurs, j'ai perdu le nom du film. Ça. c'est horrible. Un film avec Al Pacino où il finit très mal à la fin et où il est dealer de drogue. L'autre.
L'autre, voilà. Non, mais
voilà.
Scarface,
voilà. Et Scarface, en fait, quand il a été réalisé, il avait pour but de dénoncer en fait que le fait de monter dans la sphère par la drogue et par le sexe, parce qu'il fait aussi travailler des filles, comme on dirait aujourd'hui. Et donc fait que vous finissez des balles dans la peau et que ça n'a strictement rien à vous apporter et qu'en fait vous êtes un gros connard, quoi. C'est ça le but du film. Sauf qu'il y a des petites phrases de ce film qui ont été sorties et mises sur des t-shirts. Et Scarface est devenu un héros. Parce que la phrase, elle percutait. Sauf qu'en fait, quand on sort une phrase de son contexte totalement, c'est pour ça que je pensais à ton hors-contexte, et que finalement, on ne met pas tout ce qu'il y a autour, c'est là que ça craint, quoi.
Et qu'on ne replante pas le décor.
Ouais, et puis c'est comme ça qu'on se met à citer Mère Teresa, qui était une grosse saloperie, en faisant une sainte. Voilà. J'ai envie de la placer.
Entre autres.
Mais voilà, mais c'était voilà. Pour dire
c'était clin d'œil à Jean-Yves, ça.
Mais tout ça pour dire, voilà. Je voulais juste rappeler que le problème, c'est les outils et pas vraiment ce que. C'est pas l'outil rend pas intelligent, c'est ce qu'on en fait qui.
Ouais, puis juste vite fait. La pub, on la fait gratuitement par les réseaux sociaux.
Ah oui, tout à fait.
Encore une fois, on nous cible beaucoup. Enfin, les entreprises nous ciblent pour rentrer dans le consumérisme, etc. Mais ils savent aussi très bien nous manipuler pour qu'on en vienne à parler de produits à leur place, quoi. Et là, c'est tout bénéf pour eux.
C'est du travail gratuit.
C'est du travail gratuit.
Mais clairement. Je veux dire, quand vous dites, par exemple, j'ai acheté tel truc, il marche vachement bien. Quand vous dites ça et que si vous avez 1000 ou 2000 contacts, vous avez en fait fait une pub auprès de 2000 personnes.
Ouais, c'est ça.
Voilà, et c'est une pub gratos, quoi. Donc c'est là que c'est un peu tordu, quoi. Mais après, on est tous tentés de dire, tiens, j'ai acheté le dernier album de machin parce qu'on aime bien. Alors quand c'est artistique, ça passe. Mais parce que bon, voilà, partager des artistes, c'est pas ce qu'il y a de plus grave.
Ouais, et puis la culture, on a envie de la partager, voilà. Quoi, de manière générale.
Mais quand ça vrille sur j'ai acheté la dernière brosse à dents machin ou j'ai acheté la dernière bagnole, là, vous faites de la pub, quoi. C'est toute la limite, en fait, de l'exercice. Mais c'est vrai que oui, effectivement, le travail gratuit. Mais je reviendrai un jour sur le travail gratuit à travers les réseaux sociaux parce que c'est un truc qui m'intéresse bien, ça aussi. Ou l'une de vous d'ailleurs.
Ou nous tous.
Ou nous tous ensemble. Ah oui, faisons une causerie sur les réseaux sociaux. Eh ben, on va passer à la musique, si Clara elle est prête et si ça marche, parce que c'est un peu galère sans le auto-start. Hein.
Das Schicksal hat mich angelacht und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah dem Auge fern. Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Wo das süße Wasser stirbt, weil es sich im Salz verdirbt, trag ich den kleinen Prinz im Sinn, ein König, oh, ne Königin. Ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verwirrt. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Mann gegen Mann, ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Aller Räume, ich bin der Schatten aller Bäume, in meiner Kette fehlt kein Glied, wenn die Lust von hinten zieht. Mein Geschlecht schimpft mich Verräter, ich bin der Albtraum aller Väter.
Causerie 22-23 le dimanche. Des fois, ça se coupe comme ça. Et c'était Rammstein avec, excusez mon allemand, Mein Gegenmann, ce qui veut dire homme contre homme et non pas dans, au sens contre, parce que c'est une chanson contre l'homophobie. Voilà. Qui est très ironique, chantée par Rammstein. Pas du tout parce que c'est eux qui la chantent, mais elle est très bien écrite. Et voilà. Elle a surpris beaucoup des fans et c'est vachement cool quand ils surprennent. Voilà. Et Jonathan, ce soir, tu veux nous parler des youtubeuses.
Les youtubeuses.
youtubeuses.
Les youtubeurs.
Malgré ce fameux accent qui me fait dire que ce sont des youtubeuses, je voulais parler un petit peu de cette chose qui se passe déjà sur Internet depuis donc le début des années 2000, c'est-à-dire à savoir la publication de vidéos qui sont faites chez soi par des moyens pas forcément très très élaborés, mais qui seront intéressantes parce qu'elles apportent quelque chose à la société éventuellement. Et le constat a été fait que il y a une véritable différence entre hommes et femmes youtubeurs et youtubeuses. Alors, quelle est cette différence? Déjà pour commencer, quand je parle de youtubeurs, de qui je parle? Je parle de toutes ces personnes, par exemple, pour citer les plus connus, Norman, Cyprien, qui ont fait le buzz de nombreuses fois, qui sont passés aussi à l'écran de télé depuis, voire au cinéma, voire au théâtre.
On voit que tout est lié.
Exactement. Et qui gagne de l'argent en faisant ses vidéos. Parce que n'importe quel youtubeur ou youtubeuse va gagner 1 euro toutes les 1000 vues de sa vidéo. Donc si vous voulez calculer le salaire d'un youtubeur, c'est très simple. Vous pouvez aller voir sa vidéo, regarder le nombre de vues, le diviser du coup par 1000 et vous aurez le nombre d'euros qu'il gagne là-dessus. Et pour ça, vous pouvez même faire beaucoup plus simple parce qu'il existe un site. Donc, merci à un certain youtubeur que je citerai plus tard, qui m'a donné cette source, qui s'appelle Social Blade et qui est spécialisé sur les statistiques que rencontre YouTube concernant ses utilisateurs et donc tous ceux qui postent des vidéos. Donc voilà, à quoi on arrive? Eh bien, on arrive à s'apercevoir qu'il y a une véritable différence genrée entre les hommes et les femmes sur le contenu des vidéos. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les hommes, quand ils font des vidéos, elles sont portées soit sur des rubriques d'information scientifique, je pense à Y Penser par exemple, ou à Micmat, tout un tas de... Je ne les ai pas tous en tête là tout de suite, mais pas mal de personnes qui essayent de faire de la vulgarisation scientifique, qui sont souvent des hommes. Il y a quelques femmes aussi, mais elles sont assez rares. Surtout dans les pays anglophones, hein, pour les femmes, parce qu'en France, il n'y en a quasiment pas. Mais qui vont faire aussi des vidéos tests ou des gaming live, c'est-à-dire des parties de jeux commentées en live, qui vont faire des petites sessions d'humour, donc pour reprendre Norman, Cyprien, ou alors tout simplement traiter de faits de société. Donc, par exemple, je pense au truc de Chris, c'est lui qui m'a donné cette fameuse information sur Social Blade. C'est un type qui fait des vidéos YouTube sur des petits trucs qu'on pourrait savoir quotidiennement, par exemple. Mmh. Donc, c'est assez intéressant. Mais ça reste de la vidéo un petit peu de culture, de divertissement qui va essayer d'apporter quelque chose. Pour les femmes, c'est directement orienté sur le blog tuto beauté. Donc, qu'est-ce que c'est que le tuto? C'est un tutoriel, donc comment bien faire un maquillage à la Beyoncé. Voilà.
Ou des jolis ongles.
Voilà, le nail art. Ou alors... toutes ces choses-là, comment coiffer ta tête, comment maquiller
ta tronche, plutôt maquillage.
Il y a quelques femmes qui font de l'humour quand même, heureusement elles sont là. Et puis souvent ça va parler aussi de problèmes de relations sociales et amoureuses, hein, parce que ça concerne essentiellement les gonzesses, les mecs n'ont pas ces problèmes-là de toute manière. Hein, il est bien évident que seules les femmes se prennent la tête avec ces choses-là.
Évidemment.
Évidemment.
D'ailleurs, il suffit de voir les vidéos de Norman ou Cyprien pour voir que les femmes sont un peu connes, généralement.
Généralement.
Ah, pardon, c'était de l'humour, comme ils disent.
Ah oui, voilà. Non, mais parce que comme c'est de l'humour, on peut tout tolérer. Non, c'est là où ça me pose un petit peu de problème. Alors, au niveau pratico-pratique, du fait que ce soit complètement genré, il y a d'autres choses qui vont me gêner, c'est les inégalités. Par exemple, la youtubeuse qui est la plus connue s'appelle Andy, donc So Andy, qui va avoir un nombre d'abonnés de 593 000 abonnés sur sa chaîne, mais qui va rentrer dans ceux qui gagnent le plus d'argent parce que les vidéos sont souvent suivies et vues, revues, mais c'est la seule qui rentre dans le top 20 des youtubeurs français qui gagnent les plus gros salaires grâce à leurs vidéos. Et c'est la seule femme de
ce top
20.
C'est la seule femme, quoi.
Voilà. Et tout devant, on va encore retrouver Cyprien, Norman, et... Golden Moustache et le Palmacho, les choses qui sont assez courantes.
Et dans le top 20, elle a quelle position, tu sais?
Elle est dernière.
Ouais.
Elle est clairement dernière. Donc, elle gagne peu d'argent par rapport aux 19 hommes qui sont devant elle et qui sont
pour certains absolument pas connue. C'est-à-dire que, enfin, c'était pas autant que ce qu'elle pourrait être réputée en tant que youtubeuse, mais qui vont quand même faire plus de vues, qui vont voilà, gagner plus d'argent aussi, parce que on va supposer comment gagne, d'ailleurs, comment gagne de l'argent un youtubeur, c'est simplement des entreprises qui lui proposent de faire de la publicité pour de poster de la publicité dans ses vidéos ou ce genre de choses, et c'est comme ça que ça va générer la plupart des profits.
Donc alors attends, la rémunération sur YouTube, c'est, parce que tu parlais de 1000 clics tout à l'heure, c'est YouTube qui reverse de l'argent à...
C'est YouTube qui reverse de l'argent, et comment, et YouTube gagne cet argent?
D'accord.
C'est parce qu'il y a des entrepreneurs qui posent des publicités.
Des sponsors.
Et du coup, plus une vidéo est visible, plus c'est un bon support.
C'est ça, en fait, YouTube reverse une partie de la pub de départ, c'est-à-dire qu'avant chaque vidéo sur YouTube, il y a une pub.
D'accord.
Et donc tu touches un pourcentage de cette pub, voilà. Et mais il faut que il y ait un contrat avec YouTube ou avec Dailymotion d'ailleurs,
c'est
un autre, parce que sinon tu touches rien. C'est-à-dire que tu peux avoir une vidéo qui fait 14 millions de vues, mais où t'as pas de contrat avec YouTube, tu touches pas un copec. Ouais. Hein.
Et puis généralement ce contrat est proposé par YouTube, qui t'envoie un petit mail en te disant, vu qu'il y a plein de gens qui regardent ton truc, est-ce que tu veux bien qu'on te paye pour,
est-ce que ça t'intéresse d'être rémunéré pour ça?
Exactement.
Pour faire écho à ce que je disais dans le sujet d'avant. C'est encore une fois YouTube qui va choisir qui il va rémunérer et qui il va promouvoir.
Ouais, donc toi, demain, tu ne veux pas arriver avec ta vidéo et la proposer pour être rémunéré.
Non, ça ne marche pas comme ça.
C'est eux qui viennent te chercher. Et il y a un truc qui, chez les YouTubeuses qui est assez intéressant, qui s'appelle... où elles font clairement de la publicité. Donc, par exemple, des émissions de Looking, de Où est-ce que j'ai acheté mes affaires. Donc, le célèbre Back to School, c'est-à-dire le retour à l'école. Alors, pourquoi le retour à l'école? Enfin, j'ai pas compris pourquoi le retour à l'école, la rentrée, tout ça, fallait absolument acheter des choses.
Pour ressembler à une écolière, voyons.
Exactement. Ou alors pour conseiller un public aussi qui est encore au collège ou au lycée. Parce que c'est ce cœur de cible-là qui est visé. Et donc, on va proposer à des YouTubeuses, on va leur envoyer un petit mail. Donc là, je remercie de tout mon cœur une youtubeuse que j'adore qui s'appelle Adèle, qui a fait une vidéo là-dessus en expliquant que voilà, elle avait été contactée pour faire un back to school en mettant des produits dans son panier, et que l'entreprise qui l'avait contactée pour qu'elle fasse ça lui paierait ses produits en échange de pouvoir mettre aussi de la publicité sur ses vidéos, parce qu'elle est en contrat avec YouTube, parce que voilà.
Et tu veux dire que le monsieur dans ma vidéo qui disait que ça n'existait pas sur Internet, il connaissait pas Internet?
Je crois qu'il n'est pas beaucoup allé voir de vidéos sur ce.
Non, il n'a pas été démarché par YouTube, lui.
Alors, voilà, il n'a probablement pas, parce que sa vidéo n'a pas encore fait suffisamment de vues. Mais attendons quelques semaines.
Ouais, mais c'est ça.
Et oui.
Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, le panel de personnes qu'on nous propose comme étant vlogueurs, comme ils disent, parce qu'ils n'aiment pas mettre la... Donc maintenant, ils mettent youtubeurs parce que ça permet de mettre la marque.
Oui.
Là aussi, on est passé de vlogueur qui voulait dire vidéo blog, à youtubeur, qui veut dire on fait ça sur YouTube.
Il n'y a pas les Dailymotioners, d'ailleurs.
Voilà, c'est intéressant. Non, mais de voir que la marque, c'est comme Facebook qui s'est imposé, réseau social, maintenant on dit Facebook. Et donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est que ceux qu'on connaît et qu'on voit ont été de toute façon sélectionnés au départ par YouTube et promotionnés ensuite par YouTube.
Ben oui, exactement. D'accord. Et c'est comme ça aussi. Et puis, quelque part, ça génère aussi plus de vues, donc plus de profits pour n'importe quelle entreprise qui sera en lien avec YouTube. Et donc, on va les solliciter davantage. Exactement. Et le fait, par exemple, je prends Norman, le fait que lui ait été autant sollicité, ça va être aussi le moyen, finalement, de le faire, quand il va passer à la télé, de proposer aussi, indirectement, toute la publicité qui allait avec lui. Donc, tous les produits qu'il va porter, ceux qui les sponsorisent, enfin, tout le système du sponsor, au final, mais poussé à l'extrême.
Ah, c'est comme pour un joueur de foot qui est obligé de porter le maillot de son sponsor. Bah là, en fait, le youtubeur ou la youtubeuse va être obligé de porter la marque de celui qui est ou celle qui est en lien avec ça.
Ouais, faut que ça apparaisse dans la vidéo quelque part. Quoi.
Du moins, indirectement, on saura qu'il est né sur YouTube, donc ça fera une popularité à YouTube. Vous voyez le petit cercle, c'est là où ça devient vicieux. Alors après, pour reprendre sur mes youtubeuses, parce que quand même, c'est un truc de gonzesse, je tiens à signaler. J'aimerais vous faire un petit bilan de ce que j'ai pu regarder pour faire mes recherches. Alors d'abord, vous pouvez aller voir un petit peu toutes les informations que je vous donne là
en allant voir un site qui s'appelle youtuberlink.com. Quelles sont les youtubeuses beauté les plus influentes? Voilà, quand on cherche youtubeuse célèbre ou vlogueuse célèbre, on tombe sur ce site en premier sur Google. C'est-à-dire que voilà, la femme qui fait une vidéo sur Internet, c'est forcément pour montrer du fond de teint.
Et rappelons quand même que YouTube appartient à Google.
Et YouTube appartient à Google, donc les deux sont intimement liés. Hein, donc c'est voilà. La deuxième chose.
Entre moteurs de recherche.
Ah bah écoute. Hein. Fait des... Bref. Et sinon, vous pouvez aller voir sur bibamagazine.fr, donc qui est la version internet d'un magazine papier glacé.
Un magazine intellectuel, Biba.
Qu'il existe des filles qui font de l'humour sur Internet.
Non, sérieux?
Et donc, elles font un top 10 ou top 15, là, des gonzesses qui font de l'humour. Et du coup, là aussi, ça oriente vachement parce que c'est des nanettes qui sont déjà très connues, qui ont déjà beaucoup de vues. Donc, c'est voilà, au final, on est toujours en train de promouvoir les mêmes personnes parce que c'est à ces personnes-là qu'on propose des listes d'achats,
oui,
de
faire des... cercle super restreint.
Assez restreint, et puis qui génère de toute manière une publicité indirecte phénoménale. Alors, parmi ces vlogueuses, j'ai repéré, par exemple, trois très très célèbres, alors à l'international, jeunes femmes qui font des tutoriels. Principalement. Donc il y a Blair Flower qui propose des conseils beauté pour se maquiller exactement comme des stars de séries télévisées. Donc c'est ça.
Ça dépend si c'est Twin Peaks, ça peut être marrant, ou The Walking Dead.
Ouais, alors, elle va être plutôt portée Brie Van Der Kamp, si vous voyez le truc. Raté. Et donc, toujours avec du matériel improbable, hein, parce que moi, le truc pour attacher les cheveux en arrière, là, pendant que je me mets le fond de teint, tout en me mettant des trucs dans les yeux, bref, je l'ai pas. Ça coûte une blinde, parce que ce qui est lié aux cosmétiques coûte une blinde. Et puis surtout, on voit bien qu'elle utilise le machin Lancôme, le machin Dior, le machin truc. Ouais. Donc c'est très très particulier. La deuxième que j'affectionne un petit peu et qui est une minorité, parce qu'il faut savoir que ces femmes aussi qui apparaissent, hein, sont majoritairement blanches et plutôt de culture, on va dire...
Middle class,
voire bourgeoise, parce que... Ouais. Il faut bien un endroit et du matos pour faire ces vidéos. Ouais. Donc celle-là, elle sort un petit peu du lot. Michelle Phan est une Asiatique, donc j'aurais peur de dire de donner son origine et de me tromper, donc je vais pas m'avancer. Mais elle, par contre, fait des maquillages de cinéma très très sympas. Donc comment se transformer en Barbie et comment se transformer en Barbie zombie.
Ah.
Donc elle va donner des petites astuces à base de... C'est assez rigolo. Bon, ça reste très pratico-pratique, le maquillage, etc. Par contre, elle ne donne pas de marque. Ouais. Elle donne le nom des produits principalement qu'elle utilise. Donc par exemple, le latex liquide avec des mouchoirs pour faire un effet cicatrice ou l'utilisation Par contre, c'est en anglais et ça reste en anglais. C'est-à-dire que c'est pas sous-titré, c'est pas... Donc voilà, si... If you don't speak English, you don't understand, okay?
Okay.
Voilà. Ou alors, vous suivez à la lettre, vous faites pause toutes les deux secondes en disant, alors attendez, c'était quoi ça?
C'est ça, il faut avoir le traducteur Everso à côté.
C'est ça.
Et je trouve que je fais beaucoup de publicité. Final. Et bon, petite dédicace à Emma, parce qu'on en a parlé hier, on s'est croisés... pour une nuit du cinéma. Enjoy Phoenix, qui est donc une Française, qui est une Française assez connue parce qu'elle a énormément d'abonnés. Elle fait partie du top 20 des vlogueuses les plus connues et qui gagne le plus d'argent et qui fait des rubriques. Et alors elle me fait rire parce qu'elle fait des highways, c'est-à-dire des produits beauté maison. Je ne sais pas pourquoi elle appelle ça une autoroute, mais c'est pas grave. Et donc elle propose de fabriquer des produits de beauté maison, ce qui en soi est très sympathique, mais à côté de ça, elle fait des rubriques « Je rachète ou pas ?» où elle va vous présenter des savons, des déodorants, des machins, à savoir si elle les rachète une fois qu'elle les a utilisés ou pas, savoir si c'était un bon produit ou pas. Et là, encore une fois, en termes de publicité, c'est un profit énorme, alors que ça n'a rien coûté.
Donc elle fait ses produits elle-même, mais à côté de ça, elle est testeuse quand même.
Exactement. Donc ça peut poser un petit souci éthique, mais bon, jusqu'ici, tout va bien. Alors après, il y en a une aussi, donc dans les très très connues en France, qui elle, me désespère un petit peu, parce que c'est Sandrea, 26, hein, voilà, qui fait des looks, qui propose des looks.
26, même, d'ailleurs. 26.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc voilà, voilà, à force, je
trop d'anglais, tu l'anglais.
C'est ça. J'ai travaillé tout ça avant de venir. Donc, et donc, elle propose des tests de produits et des tests de tenues. Et là, ça fait peur parce que c'est des choses qui clairement sont inabordables. Elle vend ça comme du simple et du facile à réaliser. Mais c'est. Voilà.
C'est un peu le principe des chaînes qui parlent des people, quoi.
Exactement.
On te montre des choses qui ne sont pas abordables et pour te faire, entre guillemets, rêver avec du vide.
Et puis pour te proposer de le réaliser quand même. Enfin, vas-y, consomme, quoi. Enfin, ne t'arrête pas.
Endette-toi pour acheter ton fond de teint.
C'est ça. Et il y a une pratique qui, là, a tendance à me rendre folle. C'est le tag. Alors, le tag, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le fait de reprendre une thématique d'un autre vlogueur ou vlogueuse et puis de faire sa propre version. Donc, par exemple, le back to school. Le nombre de vlogueuses qui ont fait leur back to school, c'est-à-dire comment elles envisagent leur rentrée scolaire, alors qu'a priori elles sont majeures, quels petits produits elles vont acheter, quels petits produits elles vont transformer, qu'est-ce qu'elles vont faire et tout. Et donc ça, il y en a 10, 15, 20, 30, 100 qui vont faire la même émission.
Bah voilà. Un peu comme à la télé, quoi.
Ouais, non, mais parce qu'on soyons d'accord, pour être rémunéré par YouTube, il faut être majeur pour pouvoir signer ce genre de contrat.
De toute manière. Donc, alors, je ne dis pas qu'on peut rentrer aussi à l'école quand on est majeur, hein. Faut pas déconner.
Oui, non
plus,
d'accord,
mais c'est quand même.
Mais bon, on vise quand même des jeunes adolescentes. Enfin.
Donc, encore une fois, voilà. Bon, je vais me dépêcher de finir. là-dessus, dernière petite chose, il y a quand même des exceptions. Ah oui, il faut absolument que je le dise. Un truc qui marche beaucoup sur les youtubeuses, c'est les nanas qui proposent de faire du fitness chez soi. Et Lucille Woodward est la première fitness masterclass, donc elle propose des vidéos. Elle bosse avec Doctissimo, donc elle a un contrat avec une entreprise déjà, et c'est ça qui lui rapporte du fric. Et donc ça aussi, c'est un moyen, encore une fois, de toujours alimenter cette espèce de misogynie générale, de dire à la femme, il faut que tu te maquilles, que tu fasses du sport, que tu sois belle, et puis que tu fermes ta gueule. Donc, pour finir rapidement, et du coup, peut-être un petit peu plus vulgairement.
Parce que là, elle va commencer à prendre le train, faites gaffe. Accrochez vos oreilles.
Donc, moi, je vous conseille d'aller voir Adèle, qui est une toute jeune vlogueuse, et qui se fout de la gueule, donc, de la plupart de ces personnes, ou de tous les gens qui traînent sur Internet avec des vidéos YouTube un petit peu, voilà. Il y a aussi Nad Richard, qui fait des rubriques conseils qui sont intéressantes, qui sont un petit peu recherchées. On sent qu'elle a bossé son truc. Alors après, ça intéresse pas tout le monde, mais c'est bien foutu. Natou, une folle. J'adore cette femme. Elle propose des, par exemple, la vidéo que j'ai préférée, c'est elle propose un relooking version chirurgie esthétique à base de scotch, de pâtes trop cuites et de saucisses knacky. Et elle est.
On avait parlé d'elle dans la causerie parce qu'elle avait traduit les paroles de Blurred Line de façon magistrale en français. Voilà, où on se rendait compte de toute la misogynie de cette chanson.
Ah mais elle est géniale. Enfin voilà, Natou. Il y a Alice la geekette aussi, donc une jeune fille qui se bat pour faire reconnaître le fait que c'est pas parce qu'on est une gonzesse qu'on est obligé de parler maquillage et shampoing.
C'est elle qui faisait Hello Geekette.
Je crois qu'elle a fait un truc. C'est pas elle. Elle fait pas mal de vidéos de jeux vidéo.
D'accord.
En fait, mais c'est possible qu'elle ait. Et puis il y a Solange te parle. Solange te parle. Comment expliquer ça? Elle est perchée, mais elle prend pas de drogue. Mais elle est vraiment perchée. Et donc, par exemple, elle se fait décrouquer parce qu'elle a décidé d'inventer un mot qui remplacerait merde et putain, qui serait un mélange de croûte et de loc, qui donnerait donc crook. Et donc, quand elle fait tomber un truc par terre, elle dit crook. Et puis, quand elle va pas bien et qu'on vient la réconforter, on vient la décrouquer. Donc, voilà, il y a quand même des gens très, très. Mais ça reste quand même des petites exceptions.
C'est marginal,
et puis,
en fait.
C'est assez marginal, c'est peu vu, c'est pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent.
Donner leur déclic.
Non, mais c'est surtout des gens. Des gens que YouTube n'a pas choisi.
Et c'est des gens que YouTube n'a pas choisi. Et en plus, ça se voit par rapport à la qualité des vidéos, c'est-à-dire que le matos que Norman utilise dans ses vidéos, ou même que Andy utilise.
Qui d'ailleurs n'est plus dans sa chambre.
Oui, qui est complètement en studio aujourd'hui.
C'est un studio qui reproduit sa chambre, mais c'est plus sa chambre.
Mais c'est exactement ça. Là, on voit très très bien la différence de qualité de vidéo, mais tout simplement parce que c'est des gens qui font avec les moyens du bord. Donc, voilà, c'est toujours pareil, c'est véhiculer une image de la femme et par là tout un esprit de consommation par en utilisant ces femmes qui essayent quelque part d'apporter une touche féminine à l'internet général et qui se retrouvent encore coincées dans des carcans machistes et misogynes.
Voilà. Merci. Est-ce que tu veux qu'on mette la musique maintenant?
Du coup, oui, puis je vais vous donner le titre avant, comme ça.
Le donnera après, de toute façon.
On le donnera après, oui, puisque là, il faut.
Oui.
Il faut.
Supposed to call me tonight. You were supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema and after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful it then. You would have said I love you in the cutest place on earth where some lullabies are dancing with the fairies. I would have waited like a week or two, but you never tried to reach me. No, you never called me back. You were dating that bitch blonde girl. If I find her, I swear I'll kill her. I'll kill her. She stole my future. She broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. I would have met your friend. A drink or two, they would have liked me, cause sometimes I'm funny. I would have met your dad, I would have met your mom. She would have said, please, can you make some beautiful babies? So we would have had a boy called Tom and a girl called Susan, born in Japan. I thought it was a love story, but you don't want to get involved. I thought it was a love story, but you're not ready for that.
C'était Al Killer, je vais la tuer. de Soko. Et puis, donc vous êtes toujours sur Radio Canu. Et vous pouvez aussi nous soutenir parce qu'on a besoin de plein de dons. Parce qu'on est quand même des gens sympas de faire de la radio bénévolement, mais qu'on a quand même besoin d'argent.
Pour acheter un local quand même.
On achète un local. Ça y est, d'ailleurs, c'est signé. On achète le local. Et donc, pour nous aider à acheter ce local, eh bien, vous pouvez envoyer vos dons à Radio Canu BP 1101 69 200 Lyon CEDEC 01 ou alors aller directement sur le site de Radio Canu où vous trouverez un petit IBAN avec lequel vous pourrez faire des virements bancaires et c'est au top.
Trop bien.
Ou venir directement quand le bureau est ouvert.
Ouais, de 19h à 20h tous les mardis, venez nous rencontrer. Exactement. Ça nous fait toujours très plaisir.
Voilà. Ouais.
Et moi, je vais juste te donner une info, c'est que la permanence juridique de soutien aux sans-papiers et à leurs proches se tient toujours à la Lutine tous les... C'est tous les lundis, pardon, à 18h30. Voilà, des fois, j'oublie de marquer le jour. Voilà. Donc, c'est tous les lundis à 18h30 à la Lutine et c'est 91 rue Montesquieu pour ces gens qui auraient besoin d'informations, de soutien.
Voilà. Et pour ceux qui aiment bien le théâtre d'improvisation, la Ligue d'improvisation lyonnaise, la Lili, présente un spectacle qui s'appelle Hors Piste en ce moment, donc dans un petit café qui s'appelle l'Improvidence, qui est dans le troisième à côté de la Fosse aux Ours. Et le prochain spectacle sera donc le 14 novembre.
C'est du théâtre totalement improvisé, de A à Z, sans aide du public, sans rien. C'est de l'impro pendant une heure à peu près. C'est assez impressionnant à voir. Voilà. Et bah, juste dire que d'ailleurs, si un jour ils veulent venir dans la causerie, ça nous ferait vachement plaisir, la Lili.
Tout voilà. À fait.
On le place au cas où, comme ça, si quelqu'un écoutait, serait, les connaîtrait. Enfin, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Okay. Et ben voilà, on a terminé cette causerie brillamment. C'était bien, hein?
Ouais,
on a un peu dépassé de 15 minutes.
C'est ça.
Et Clara, qui est super sympa, va nous dire par quel titre nous terminons cette causerie ce soir.
Alors, on se quitte avec Kero Kero, un titre de Sean Lee's Ping Pong Orchestra.
Oh, comment tu l'as bien dit. Et avec la douce voix de Natasha Atlas, d'ailleurs, dans ce titre. Ouais. Bonne semaine, bon courage à tous ceux qui bossent, parce que c'est pas facile. Bon courage à tous ceux qui bossent pas, parce que c'est pas facile aussi. Et bon courage à tout
compliqué.
Le monde. Et voilà, et profitez de la vie.
Et ciao ciao.
À bientôt. Salut salut, au revoir.
Bonne nuit.
Au revoir. We'll be right back.
de l'album Gibraltar de Abdelmalik.